Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Vous êtes sur Radio TerraZen et vous écoutez l'émission Spiritualité en question. Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission du mois de mars, hein, sachant que le mois précédent, donc le mois de février, il n'y a pas eu d'émission de Spiritualité en question. Donc ce soir, on va parler un petit peu de pas mal de sujets avec Jean, je vais de suite accueillir. Jean, est-ce que tu m'entends ?
Oui, parfaitement. Bonsoir.
Oui, bonsoir Jean. Content de te retrouver pour cette émission du mois de mars.
J'ai l'impression que ça coupe, j'ai des coupures de...
Ah oui, effectivement, de mon côté, j'ai un petit peu des problèmes techniques. Alors attends, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de te rappeler sur Skype. Voilà, donc désolé un petit peu pour ces problèmes techniques. Malheureusement, c'est un petit peu les aléas du direct. Donc je vais essayer de suite de rappeler Jean. Voilà. Voilà. Est-ce que tu m'entends mieux maintenant ?
Je t'entends parfaitement.
Ah. Alors, on a peut-être des soucis avec Skype ce soir.
Et là, ça coupe.
Ah. Ça coupe de ton côté parce que moi.
Ah oui, ben, je ne sais pas parce que je n'ai pas encore beaucoup parlé. Mais là, quand tu as parlé deux, trois fois, là, ça a coupé. Petite coupure de quelques secondes, quoi.
D'accord. Moi, pour l'instant, je n'ai pas eu de coupure de mon côté. Bon, comme je rappelle. Pardon.
Ouais, allons-y, on verra
voilà.
Bien.
Bon, quand je le rappelle aux auditeurs, hein, c'est du direct, hein, donc malheureusement, il y a des aléas qui sont un petit peu pas forcément de notre faute. Ça m'a recoupé aussi de mon côté, quoi. C'est un peu embêtant.
Oui.
Alors, je sais pas de quel côté ça se passe.
Moi, j'ai rien d'anormal ici, hein. J'ai rien de.
Ouais, moi pourtant là de mon côté c'est bien aussi, donc c'est ça que c'est un petit peu étrange.
C'est bon ici, y a pas de problème.
Ouais, moi par moment ça me met connexion de qualité médiocre, alors je ne sais pas si c'est le réseau Skype qui bug, je ne sais pas du tout.
Bon, écoute, on va continuer, on va bien voir, peut-être que c'est pas trop grave, je ne sais pas.
Ouais, peut-être que ça va passer. Comme je disais un petit peu là, en introduction de cette émission de ce soir, on va un peu parler, même beaucoup parler du mouvement des Gilets jaunes, mais surtout on va pas vraiment s'intéresser à tout ce qui est côté médiatique et politique, on va s'intéresser un petit peu à ce qu'il y a derrière. Donc Jean, est-ce que tu peux un petit peu essayer de nous dire ce que tu as envie de parler en introduction sur ce sujet ?
Bah oui, les Gilets jaunes, puisque c'est de ça. C'est vrai que je suis intéressé depuis le début et voir un peu comment ce mouvement prend forme. Au début, je croyais pas que ce mouvement allait perdurer. Je me disais ça va pas durer longtemps. Et puis finalement, je me suis trompé. Ce mouvement est bien là maintenant et il va perdurer, il va pas s'arrêter comme ça. Et du coup, je réfléchis depuis pas mal de temps et je me dis, mais qu'est-ce que ça cache, ce mouvement ? C'est vrai qu'il est parti par des revendications que tout le monde connaît, la justice sociale, les impôts, les taxes, le pouvoir d'achat, et bon, c'est vrai que, voilà, on a parlé de ces pieds d'ailleurs. Au fur et à mesure, on s'aperçoit que de nouvelles revendications sont apparues. Il y a de plus en plus de revendications. Et quand on écoute bien, mais quand on écoute vraiment attentivement les uns et les autres, et même quand on va sur les ronds-points, hein, carrément, hein, et parler avec des gens, on s'aperçoit que les revendications, elles s'étendent à un point, c'était pas imaginable il y a 2 ou 3 mois, quoi. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce qui pousse, en fait, aller tous les samedis, à manifester, et pas que tous les samedis. Hein. Je sais que chez nous, par exemple, ils y sont 24 heures sur 24. Hein. Ils dorment sur place, sur les ronds-points. Hein. C'est absolument fantastique, quoi. Et cette détermination laisse penser qu'en fait, il y a quelque chose, mais peut-être sur un plan inconscient, il y a quelque chose qui pousse tous ces gens à être là. Et qu'est-ce qu'ils veulent en fait ? Ben, on a l'impression qu'ils veulent tout changer. Ils veulent tout changer, remettre la démocratie dans ses bases, quoi, qu'on a perdu depuis longtemps, puisqu'on n'est plus du tout en démocratie. Et donc, j'essaye de comprendre un peu ce qui se passe, mais sur un plan inconscient plutôt que ce qu'on voit et ce qu'on entend partout. Quel est ce mouvement qui pousse les gens à sortir de chez eux, aller dans les rues ? Voilà, donc ça, c'est intéressant d'essayer de comprendre, et c'est vrai que ça reprend un petit peu toutes les prophéties qu'on a pu lire, prophétie de Saint Jean, tout ça, et bien d'autres. J'ai étudié le calendrier Maya il y a quelques années, et qu'est-ce que disait le calendrier Maya ? Effectivement, qu'à partir de 2012, les changements allaient se produire, et c'est vrai que les trois années qui ont suivi, c'était une préparation à ce changement, et ce changement, il est là. Alors, c'est quoi ce changement ? Alors, il y a encore une chose. L'astrologie, je l'étudie depuis très longtemps, et il y a une vingtaine d'années, je m'étais mis à creuser un petit peu l'astrologie mondiale, que j'avais un peu délaissée, donc je m'étais mis un peu à étudier, et puis finalement, qu'est-ce qui était apparu ? C'est que l'époque qu'on vit était déjà marquée il y a une vingtaine d'années, j'ai retrouvé des notes que j'avais de cette époque, et c'est vrai que il était apparu que on était en train de vivre cette période, cette année-là, donc l'année 2018, l'année 2019, et surtout l'année 2020, de grands changements, mais de grands changements, qu'on ne peut pas imaginer les changements qui vont se produire. C'est pour ça que les Gilets jaunes, pour revenir à eux, inconsciemment, ils sont poussés par quelque chose de plus fort qu'eux, quoi, sur un plan inconscient. Voilà, c'est ce que je peux en dire, mais j'essaie de comprendre toujours, hein, qu'est-ce qui se passe derrière ce mouvement, et je me dis que peut-être que, en fait, ce mouvement va continuer au point où changer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire changer le mode de scrutin, changer la manière de faire de la politique. C'est quelque chose que j'ai l'impression qui commence à se dessiner. Les partis politiques, déjà, ont mordu la poussière depuis 2 ans. Là. Mais il y a pire que ça. Mis à plat pour démarrer quelque chose de neuf. Et c'est ça que je sens venir. Alors bien sûr que pour arriver à ce résultat, il faudra non pas beaucoup casser, casser ça signifie rien et ça n'apporte rien le fait de casser. Bouleverser toutes nos structures, tout ce qui existe pour refaire du neuf. Moi c'est quelque chose que je sens depuis quelques années et ce mouvement qui est là, peut-être, est-ce que c'est les prémices de ce grand changement, de cette révolution, mais de cette révolution d'un autre type, pas de celle qu'on a connue. Hein. Pas du tout aux révolutions passées, 89, 1830, 1848, 70, 71. Elle ne ressemble pas du tout à aucune de ces révolutions, hein, qui soit dit en passant. Ces révolutions n'ont pas changé grand-chose. Hein. Mmh,
tout à fait.
Bah oui, donc faire la révolution de ce type-là, c'est plus du tout à l'ordre du jour, quoi. C'est voilà, il faut renoncer à cette idée de tout casser. Non, ça n'aboutit à rien. Ça n'aboutit pas comme ça qu'il faudra le faire. Mais je sais pas, j'ai pas la solution. Hein. Mais voilà, donc il y a quelque chose de beaucoup plus fort que ce qu'on peut imaginer qui est en train de se passer. Moi, c'est ça que j'essaie de comprendre. Voilà. Alors bon, eh bien, on verra demain, on verra les jours qui vont venir, les semaines qui vont venir, mais certainement, elles vont nous apporter des changements tout à fait énormes, énormes, énormes.
Oui. Oui, c'est clair que là, au niveau des ronds-points et tout ça, d'ailleurs, J'ai accompagné la mère de ma fille pour aller récupérer sa fille à un endroit et j'ai vu plusieurs ronds-points où il y avait justement des gilets jaunes qui étaient sur place et tout, qui étaient toujours là. Je sais qu'en Provence, il y en avait aussi du côté de Cavaillon, qui ont été malheureusement dégagés des ronds-points. Alors peut-être qu'entre-temps, ils sont revenus, hein, je ne sais pas, mais je sais que tout ce qui se passe au niveau entre guillemets, du pouvoir commence à monter ce côté du visage que beaucoup de gens éveillés disaient, hein, mais que maintenant on ne nous prend plus pour des gens uluberlus parce que maintenant ils voient les choses. Hein, là, il n'y a plus de choses qui sont masquées. Hein. Il y a même des momos, enfin des mots qui ont été prononcés par justement Macron sur ça en disant j'étais même pas au courant qu'il y a une sexagénaire qui a été a priori matraquée. Et que cette personne s'est permis de dire que cette personne-là fasse preuve de sagesse. C'est hallucinant de voir ce genre de choses-là, quoi. C'est un mépris, mais vraiment incommensurable. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Si tu as vu cette histoire, enfin moi je suis un peu tombé dessus là actuellement, mais c'est.
J'ai vu clairement là ce soir le procureur de. Où est-ce que ça s'est passé à.
À
Ça s'est
Nice.
passé. Ouais. Donc le procureur, après son enquête, a annoncé que cette personne a été bousculée volontairement par un policier. Donc ça change un peu les données. Mais Macron, quand il dit des choses comme ça, mais. Il est habitué, on est habitué à l'entendre. Il en a dit des paroles. On pourrait déjà faire un petit roman avec toutes les paroles qu'il a dites et qui vont dans le sens du mépris envers le peuple français en général. Mais alors, moi, je me pose la question, est-ce que c'est dans sa nature de déraper et de dire des choses comme ça, ou bien est-ce que toutes ces paroles sont minutieusement orchestrées et prononcé à dessein, dans un but que j'ignore, mais ce qu'on peut voir, c'est que toutes ces paroles sont là pour faire perdurer le mouvement. Moi déjà, j'étais persuadé que ce mouvement avait été créé par les élites.
Oui.
Et ce n'est pas un mouvement qui est né spontanément. Bien sûr que ça grondait depuis longtemps.
Oui,
À mon
effectivement.
avis, il a été créé par les élites. Alors, je ne sais pas l'objectif. Je me rappelle quand ce mouvement avait été annoncé, un bon mois avant le 19, le 17 novembre, une chose qui m'avait frappé, c'était incroyable, c'était tellement grossier, c'est que ce mouvement a été repris par tous les médias. C'est-à-dire, on ne parlait, les 3 dernières semaines, on ne parlait que de ça du matin au soir, le 17 novembre. Ce qui veut bien dire, quand on sait que les médias appartiennent à quelques milliardaires français, lesquels ont nommé Macron à ce poste. Donc, quand on voit ça, on se dit en train de mijoter. Pour moi, c'était clair. Et quand le 17 novembre est arrivé, ben, pour moi, dans mon esprit, je me disais, qu'est-ce que ce mouvement créé par les élites veut nous montrer? Pour moi, c'était clair. Et j'ai pas la réponse, hein, j'ai pas vraiment la réponse. Mais pourtant, ce qu'on voit quand Macron parle, toutes les actions que fait le notaire, en fait, c'est fait pour créer plus de colère et plus d'irritation.
C'est ça.
Et pour faire perdre le mouvement. C'est comme les. Ils sont protégés. Qui sont-ils, ces casseurs? Ça, c'est une grande question. On ne sait pas. On n'a aucune information sur ces gens-là. Ou alors, information. Et ces casseurs, quel est leur rôle? Mais leur rôle, on le voit bien, c'est de créer quelque chose qui irrite l'ensemble des Français, parce que ça fait porter sur les gilets jaunes la responsabilité de ces dégâts, de ces casses. Hein.
Oui.
Donc il y a quelque chose qui se crée, qui fait que, voilà. Et les pauvres gilets jaunes, je veux dire, les pauvres gilets jaunes, les pauvres gens, ceux qui sont convaincus de leur action, qui sont là tous les samedis, Je trouve qu'ils sont d'un courage extraordinaire. Mais j'ai l'impression qu'ils se font, en quelque sorte, manipuler, d'une certaine manière. Mais dans quel but, je ne sais pas. En tous les cas, ce que je disais tout à l'heure, ce mouvement est porteur de quelque chose de complètement nouveau, quand même. Voilà. Alors, est-ce que le gouvernement s'est trompé? Est-ce qu'ils veulent casser ce mouvement maintenant à tout prix parce qu'ils sentent le danger? Je ne sais pas. J'ai pas la réponse. Je ne sais pas. J'essaie de comprendre, j'essaie de regarder un peu, mais j'arrive pas à saisir vraiment ce qui se passe derrière, quoi. Ce que ça cache vraiment, quoi.
Moi, ce que j'en ai un petit peu analysé de ce mouvement-là depuis le 17 novembre 2018, j'ai remarqué déjà qu'il y a eu un changement de revendication qui a complètement changé d'orientation. Il y a beaucoup de personnes au niveau des Gilets jaunes qui sont quand même des gens qui sont assez éveillés et conscients de ce qui se passe. Ils en parlent beaucoup clairement. Des propos que, aussi bien toi que moi ou d'autres personnes qui sont conscients de ce qui tourne autour de nous, quand on en parlait, on nous disait tout de suite complotiste ou parano, machin, etc. Et bien, dans ce mouvement des Gilets jaunes, il y a énormément de personnes qui sont conscientes de tout ça et qui en parlent et qui ne se jugent pas entre eux, quoi. Qui sont, pour la plupart, tous d'accord sur ces choses. Et j'ai remarqué aussi que ce qu'ont fait les Gilets jaunes, ils ont provoqué aussi le retour à la discussion dans la vie réelle entre des personnes qui ne se connaissaient pas, d'une cohésion de personnes qui ne se connaissaient pas non plus. Hein, avant ce mouvement-là, personne ne se connaissait. Il y a même des gens qui se sont rencontrés, qui sont tombés amoureux. Donc, on peut dire que c'est... Voilà. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont commencées à sortir de ce mouvement. C'est notamment tout ce qui est agriculture alternative. Parce qu'il y en a beaucoup qui... Le problème majeur qu'il y a, c'est parce qu'ils ont du mal à manger. Et donc, beaucoup ont eu des idées de se dire bah, peut-être qu'il faudrait se lancer à faire certaines choses pour pouvoir créer sa propre alimentation et tout ça. D'aller vers l'autonomie, parce que j'ai eu beaucoup de retours sur ce genre de choses-là, hein, d'aller vers l'autonomie. Et d'ailleurs, au niveau de la web radio, hein, j'en parle un petit peu là, il y a une association qui est en cours de création. Cette association-là, au début, moi, je voulais la faire spécifiquement sur la web radio, mais en fait, elle va être un peu plus généraliste parce que j'ai un autre pôle qui est en train de se monter en idée et tout ça. Ce serait de créer des jardins collaboratifs en permaculture de façon à apporter des solutions à justement à ce problème alimentaire, c'est-à-dire se passer un maximum de des grandes surfaces de ce côté, les fruits et légumes, ce qui est quand même une partie la plus importante de notre consommation, parce que les gâteaux et tout ça, bon, c'est plus une gourmandise, mais c'est pas quelque chose qui nous nourrit. On est bien d'accord, hein, que les légumes et les fruits, c'est quand même quelque chose qui est plus essentiel à nous qu'un paquet de gâteaux. Voilà. Et honnêtement, moi, je pense que ce projet-là, déjà, pourrait répondre, ainsi que d'autres projets qu'eux, ils sont en train de mettre en place, à une demande spécifique. Et plus on va aller vers autre chose, plus ils vont être forcés de changer. Parce que là, justement, avec la mère de ma fille, on était allé faire 2-3 courses et tout ça, et on regardait un petit peu sur les étalages qu'il y avait dans les magasins, et on voyait que, par exemple, il y avait du jambon sans sel nitrité. Quand on sait que le sel nitrité provoque énormément de cancer colorectal, on se dit que, tiens, il commence à changer. Petit à petit, il change les aliments, parce que les gens sont de plus en plus conscients qui, entre guillemets, excuse-moi l'expression, mangent de la merde. Ils en sont de plus en plus conscients. Et donc, du coup, ils veulent autre chose. Donc, quelque part, plus on est nombreux à vouloir autre chose, et on les fait plier. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre, et c'est ça qui fait la force, justement, des Gilets jaunes, du peuple français. C'est que plus on sera nombreux à dire stop, moins ils vont avoir de pouvoir, parce que là, ils n'auront plus aucun pouvoir. Si on est à, allez, je sais pas, 70% de la population française à dire stop, bah là, ils vont vraiment avoir peur. C'est pour ça que ce que tu disais, là, ce qu'ils essayent de casser et tout ça, c'est parce qu'ils savent que plus il va y avoir de rassemblements et plus ils vont avoir un front important et qu'ils ne pourront plus rien faire. Parce que, moi, je le sais de source sûre, même l'armée n'écouteront pas les ordres qu'ils leur donneront. Il y en a plein de militaires qui ont dit, s'ils nous demandent de tirer sur le peuple français, nous nous mettons tous, oui, notre droit de retrait en arrêt maladie. parce qu'ils savent très bien les conséquences au niveau de droit international, ce que ça va avoir comme conséquence, et ils ne veulent surtout pas prendre parti avec ce genre de choses, ce qui peut être, ce que je comprends tout à fait, hein, parce qu'ils se sont engagés pour protéger la France et le peuple français, et non pas agresser le peuple français pour des sur ordre d'un gouvernement. C'est pas du tout leur engagement. Hein. L'engagement d'un militaire, hein, j'ai parlé avec plein de militaires, j'ai même un ami qui est militaire, même un ami qui était ancien légionnaire, il a dit, les mots de notre engagement, c'est protéger le peuple français et la France. Point. Voilà. S'il y a des militaires qui nous écoutent en ce moment, je pense qu'ils confirmeraient d'un oui de la tête que effectivement leur engagement, c'est ça. C'est pas de tirer sur le peuple. Voilà. Un petit peu...
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, est-ce que des militaires, je ne sais pas trop. Ce que je sais, c'est que beaucoup de militaires haut gradés sont francs-maçons.
Oui.
Et donc là, ça me met un doute, quand même. Tu vois ? Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais quand on voit l'armée dans les rues, c'est sûr que ce n'est pas très rassurant, quand même. Hein.
Oui. Mais moi, quand je parle de ça, je parle du soldat. Parce que ce n'est pas des haut gradés qui vont aller dans la rue avec une mitrailleuse. Hein.
Non, mais les soldats, ils obéissent. Oui. Les soldats, c'est ça. L'armée, c'est un bloc. Hein.
Oui, c'est ça. Mais comme je te dis, un soldat qui aura pris cet engagement-là, il y en a qui ils sont prêts à démissionner parce qu'ils ne veulent pas prendre parti de ça. Et il y en a qui utiliseront soit leur droit de retrait, même si c'est cour martial, machin, nana. Et je sais que sur ça, bah, ils n'auront pas peur parce qu'ils savent qu'au droit international, il y en a d'ailleurs, il y en a même un qui me l'a dit. Il dit au niveau du droit international, il a dit si je suis des ordres qui sont totalement illicites, il a dit je serais passible de pire que la cour martiale. Voilà.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Tu sais, j'ai écrit un article, je ne sais pas si tu l'as vu, j'ai écrit dans mon site il y a quelques mois, mais c'est un article sans grande portée, mais j'aime bien écrire de temps en temps un petit mot comme ça. Où je parlais comme de ce qui se passe, bien sûr, les gilets jaunes et tout ça. Et je parlais de cette révolution que pour moi, c'est pas utile de faire une révolution. C'est pas, non seulement c'est pas utile, mais ça sert à rien, quoi.
Oui.
Ça ne fait que renforcer le pouvoir en place, en quelque sorte.
Puis ça
ne change pas rien. On aura beau tout casser, quand la révolution se terminera, comme toutes les autres révolutions, les riches d'avant, ben, c'est toujours les mêmes, ils sont toujours aussi riches, voire plus riches qu'avant. Et les pauvres, c'est toujours les mêmes, ils seront toujours aussi pauvres. Hein. Donc ça ne va pas changer, quoi. Donc, faire des révolutions pour arriver à ce résultat, c'est complètement inutile. Moi, je faisais une proposition. Cette proposition, elle peut paraître utopique, mais pour moi, ça serait une véritable révolution qui changerait en quelques jours la face de tout ce qu'on peut voir sur le plan politique et économique. Ce serait de ne plus mettre les pieds dans les grandes surfaces. Tout simplement. Plus mettre les pieds dans les grandes surfaces. C'est-à-dire dans les grandes marques. Toutes ces grandes marques dont on ne sait pas à qui elles appartiennent. Quand tu mets de l'argent à la caisse, tu ne sais pas où va cet argent. Tu ne sais pas s'il va rester en France ou il s'en va ailleurs. On ne sait rien du tout. Et ne plus mettre les pieds dans une grande surface, ça va être véritablement une révolution. Non seulement ça va affaiblir ces grands groupes, les faire réfléchir, mais surtout, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que ça va multiplier et recréer des circuits courts dans les villes, dans les villages et partout. Ça va recréer des commerces, ça va recréer du commerce, et ça va recréer des emplois. Mais aussitôt, ça peut être très rapide, hein. Mais bien sûr, comment est-ce que d'un coup, tout le monde arrêterait dans les grandes surfaces. Alors, dans les grandes surfaces, surtout sur le plan de l'alimentation. Comme tu disais tout à l'heure, il n'est pas utile d'acheter des gâteaux, on s'en passe très bien, on peut acheter des légumes et des fruits.
Oui.
Mais des légumes et des fruits, on en trouve partout en France, autour de chez soi. Voilà. Oui. Ça, même en ville, on en trouve partout. Il y a des producteurs il y en a partout, on trouve de tout. Viande, fruits, légumes, fromage, enfin, tout ce qui est le nécessaire pour manger. Mais c'est pas utile d'aller dans les grandes surfaces. Est-ce qu'on a besoin d'aller manger des fraises en décembre ou des tomates? C'est pas utile.
Non.
Et ce faisant, ça va plaire à tous les écologistes, tous les écolos, parce que qu'est-ce que ça va faire? On va arrêter de faire circuler des bateaux qui transportent des marchandises, qui traversent le monde entier. Ben, ils n'auront plus besoin de le faire. Donc on va beaucoup moins polluer. On va, en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? On va peut-être arrêter l'esclavage de jeunes, d'enfants de 8 à 10 ans qui travaillent 12 heures par jour dans des grands, dans des pays, enfin on les connaît tous. Peut-être qu'on va arrêter cet esclavage. Et il va se passer des choses de façon très importante, énorme. Est-ce que tu ne crois pas que ça serait une vraie, véritable révolution sans vouloir s'attaquer à quiconque? Juste le fait de ne plus mettre les pieds dans une grande surface, au moins pour l'alimentaire. Au moins pour l'alimentaire. Est-ce qu'on a besoin d'aller acheter des... Mais il y a mille choses. Moi, je le vois ici, nous, on est dans une petite ville. On ne met jamais les pieds dans une grande surface et on vit parfaitement bien. Parfaitement bien. Il y a un marché toutes les semaines. Et au marché, il y a une grande partie, c'est que du bio. Parce que les gens font de plus en plus de bio maintenant. Eh bien, on achète tout pour la semaine et on n'a besoin de rien d'autre. Rien d'autre, hein, vraiment. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle serait l'urgence d'aller dans les grandes surfaces pour les manger. Je vois pas. Donc ça serait une... Et alors, à terme, ben, on aurait des prix beaucoup plus intéressants que dans les grandes surfaces. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les grandes surfaces? Et c'est ce qui se passe depuis 40 ans. Peu à peu, les grandes surfaces ont fait fermer toutes les boutiques, toutes les épiceries, tous les magasins. Il subsiste encore des boulangeries. Une boucherie de temps en temps, par-ci, par-là. Et presque plus rien, il n'y a plus d'épicerie, par exemple. Hein? Donc, ils ont, au lieu de nous faire croire qu'ils ont créé des emplois, ils ont créé du chômage, d'une part. Et puis, maintenant qu'ils ont le monopole, quasiment, bah, ils vont faire les prix qu'ils vont vouloir. Hein? Il ne faut pas croire que dans les grandes surfaces, c'est moins cher qu'ailleurs. Non, pas du tout. Je le compare tout le temps. Nous, on va au marché, on achète tous nos l'alimentation pour la semaine. Mais c'est moins cher que dans les grandes surfaces. Là, on parle avec les producteurs. Enfin bon, c'est autre chose, quoi. Et en plus, on mange des produits sains, normaux, qui n'ont pas de pesticides et on n'a pas de questions à se poser. On le sait. Voilà, moi, c'était une suggestion. Et je trouve que ça serait une véritable révolution parce que si on réfléchit bien, ce que ça peut entraîner, c'est énorme, hein. C'est absolument énorme ce que ça peut entraîner. Et ça serait une révolution sans aller taper sur les gens, sans aller casser quoi que ce soit, une révolution douce, chacun de son côté, et ça serait vraiment formidable. On serait en train de créer quelque chose de nouveau. Bon, voilà, c'est une suggestion.
Oui, effectivement, c'est un peu la même idée que j'ai aussi, hein, que d'autres personnes ont. Mais disons que là, sur le côté, c'est vraiment aller dans la permaculture. Parce que d'ailleurs, il y a même le créateur de Auchan, donc je ne sais plus le prénom, mais c'est Muliez, le nom de famille, enfin voilà. Il a avoué, hein, c'est quand même le groupe Auchan, c'est un peu un centre commercial très important en France. Il a avoué qu'il a dit on va être obligé de passer par la permaculture.
Oui, bien entendu, mais on devrait ignorer ce qu'ils disent, monsieur. Si on faisait ce que je propose, est-ce qu'on aurait besoin de savoir ce qu'il va proposer ou pas? On s'en fiche. Vous pensez? On s'en fiche. Mais c'est très bien qu'ils disent ça, bien entendu. C'est comme, maintenant, dans les grandes surfaces, tu vas trouver des produits bio partout. Bon, c'est bien, mais c'est pas ça qui est important. L'important, c'est de plus y mettre les pieds.
Oui, non, mais moi, je parlais pas d'aller dans les centres commerciaux, c'est juste... pour vraiment parler sur le côté de la permaculture, parce que même le bio,
bien sûr.
Le bio, malheureusement, il fait une agriculture qui est intensive, qui n'est pas bon pour nos terres. Comment il s'appelle, Bourguignon, je ne sais plus le nom de famille,
oui.
Il le dit que même l'agriculture bio n'est pas bon pour nos terres. À long terme, si on continue comme ça, on va faire tuer nos terres. Il a dit, la seule et unique solution qu'on a, c'est la permaculture, c'est de laisser faire la nature. Parce que le problème, c'est que retourner la terre et tout ça, plus on pense faire bien. Mais malheureusement, en fait, on la tue. Et je me suis intéressé à ces vidéos, ainsi que d'autres vidéos de gens qui parlent de la permaculture, des méthodes, comment mettre en place. Et quand on comprend tout le mécanisme qu'il y a, on se dit qu'effectivement, on fait un truc complètement idiot. On fait quelque chose d'idiot. D'ailleurs, même Claude Bourignon, voilà, j'ai retrouvé son nom. Il a dit que ce qu'il y a actuellement, le Sahara, il a dit qu'il y a très longtemps, c'était pas comme ça. C'est parce qu'il y a eu tellement d'agriculture intensive qu'à force, avec un climat qui n'était déjà pas non plus très, qui était déjà très fragilisé, ça provoquait le désert. Et il a dit, si on continue comme ça, dans 30-40 ans, on sera déjà dans les débuts de la, enfin, de la mort de nos terres en France. Et alors, il a dit, je le constate hein, déjà.
C'est... Ouais. Oui, mais je suis d'accord.
Voilà.
Mais regarde, je reviens sur ce que je disais. C'est-à-dire, moi, ce que je propose, quand je dis de plus mettre les pieds dans les grandes surfaces, bon, ça a l'air d'une généralité comme ça. Ouais. Moi, ce que je propose, encore plus précisément, c'est que chacun se prenne en main. Et que ce que tu dis, c'est très intéressant. Bien sûr, je suis sensibilisé à ça. Mais après tout, on s'en fiche que les gens fassent de la permaculture, qu'ils fassent de la culture intensive. On s'en fiche. Qu'est-ce qui est important? C'est ce que nous faisons, nous, sur un plan individuel. Si sur un plan individuel, chacun se prend en main et prend la responsabilité de ce qu'il doit faire, de ce qu'il va manger, de ce qu'il va, le produit qu'il va acheter, qu'il va voir le producteur et il va voir que c'est un produit qui est bon pour lui. Si chacun fait ça, c'est ça la véritable révolution. Elle passe par l'individu. Elle passe par l'individu. Vouloir changer ce que font les autres, c'est peine perdue. Ça ne marchera pas. Ça sera que des luttes, des combats, des grandes discussions, et on n'aboutira jamais. La seule révolution qui compte, c'est elle est individuelle. Individuelle. Sans s'occuper de ce qui se passe ailleurs. Voilà. Et c'est ça que je voudrais, moi, arriver à... Je vais pas arriver à convaincre, je vais pas le faire, ça, je vais pas pouvoir, mais au moins qu'il y en ait quelques-uns qui soient convaincus de ça, et qui, sans s'occuper de ce qui se passe ailleurs, va acheter ses propres produits là où il faut les acheter, parce qu'il sait que c'est bon pour lui. Et sans s'occuper du reste. S'il y a un certain nombre qui fait ça, c'est un certain nombre de personnes qui arrivent à faire de vivre comme ça, c'est ça qui va basculer le monde, tu comprends? Mais ça passe par l'individu. Vouloir changer les autres, vouloir les convaincre de faire comme ci ou comme ça, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas changer les autres si soi-même on n'a pas vraiment agi déjà dans ce sens-là. Tu comprends? Ça, c'est la véritable révolution. Elle passe par l'individu. Chacun, dans son coin, il agit. Il agit pour lui. Et ça, c'est la révolution. Elle commence comme ça. Mais tant qu'on a cette idée de vouloir changer le monde, changer, je ne sais pas, les autres en général, dans ce qu'ils doivent faire, ou dans ce qu'ils font et que ce n'est pas bien parce qu'il faudrait faire autrement, c'est des discussions. Et on n'y arrivera pas. Bien sûr que tu as raison quand tu dis que toutes ces cultures maintenant sont en train de tuer la terre. Mais les terres sont mortes partout, bien souvent. Je suis d'accord. Bon. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On va les convaincre de faire autrement. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Alors, il y a des prises de conscience, bien sûr, comme celui dont tu parles, ce monsieur d'Auchan. Il y a une prise de conscience, mais lui, sa prise de conscience, c'est surtout le tiroir caisse qui compte. Hein, c'est surtout le tiroir caisse. La prise de conscience, lui, peut-être que lui, il va acheter chez le producteur local, il ne va pas acheter ses propres légumes et ses fruits. Ça m'étonnerait, hein, parce qu'il doit être assez intelligent pour savoir que ses propres fruits et légumes sont immangeables. Il doit bien le savoir, lui. Tu comprends?
Oui, non, ben, ça, oui, sur ça, oui.
Ah ben, ça m'étonnerait qu'il mange les légumes et les fruits qu'il vend dans son magasin, tu comprends? Ça, c'est, je serais vraiment très étonné. Ou alors, il n'est pas aussi intelligent qu'on le pense. Tu vois? Ben oui, C'est comme tous les gens qui parlent, il y en a qui parlent beaucoup. C'est comme dans un article aussi, je l'ai mis ça. Je parlais des vaccins, tu sais. Et je disais que tous les nos élus, nos hommes politiques, ceux qui sont assez importants déjà, les médias, mais ceux qui sont importants, les chefs d'entreprise importants, tous ces gens-là, il y en a une multitude. Eh bien, j'ai écrit ça, mais j'attends qu'on m'apporte un démenti. J'ai dit, tous ces gens-là, à mon avis, ils ne font pas vacciner leurs propres enfants, parce qu'ils savent le danger. qui est de faire vacciner ses enfants. C'est un danger, c'est un génocide qui est en train de se préparer. Ça, on n'en parle pas assez. Les gilets jaunes n'en parlent pas assez de ça. Pourtant, la loi est sortie, on devrait, à partir du 1er janvier, vacciner les nourrissons de 3 mois ou 4 mois. Hein. Et ça, c'est un véritable génocide. Le mot est pas trop fort. Hein. Il y a des enfants qui meurent à tire-larigot maintenant, à l'appel. Et quand ils ne meurent pas, ils sont très malades. L'autisme, etc. Il y a beaucoup de choses qui se. Bon, ben, ceux qui savent. J'étais tombé sur une enquête il y a 3 ou 4 ans qui disait. Malheureusement, je n'ai pas pu la retrouver parce que c'est le genre d'enquête qui, maladroitement, elle sort comme ça, tu sais, et puis après, oh putain, on l'avait dans un tiroir. Qui disait que, une enquête qui s'est faite en Suisse, il y a 3 ou 4 ans, qui disait qu'un médecin sur deux ne fait pas vacciner ses propres enfants. Parce qu'ils
Oui,
sont pas idiots.
ça j'avais vu, oui.
Ils savent ça. Ils savent. Tu comprends? Et donc, c'est pareil pour ceux des grandes surfaces. Et puis, tous ces gens, toutes ces élites ne vont pas manger des légumes ou des fruits qu'on vend dans les grandes surfaces. Tu vois? Donc, voilà. Voilà, ce que je voulais dire, c'est ça. Donc, la révolution, elle passe par l'individu. Voilà. Quand on veut changer le monde, il faut vraiment vivre ce qu'on veut voir vivre ailleurs. Tu comprends? Il faut commencer par le vivre soi-même. Et ça, pour moi, c'est le meilleur exemple. On ne peut pas en parler aussi bien que quand on le fait soi-même, déjà. Tu comprends? C'est comme quand un enseignement spirituel, si on n'a pas fait un long chemin dans ce sens, comment est-ce qu'on peut en parler? On ne peut pas en parler. Hein? Ah, c'est pareil. Voilà, Cédric, ce que je voulais dire là-dessus. Bon.
Oui, mais moi c'est vrai que j'en parle surtout sur ça, c'est parce qu'à un moment tu disais acheter les fruits et tout ça, mais le souci, ce qui revient souvent dans les gilets jaunes, c'est qu'ils n'ont plus les moyens d'acheter quoi que ce soit. Ils sont vraiment tombés dans un point où beaucoup vont faire les poubelles. C'est pour ça que moi je parlais de ce côté de
Oui.
permaculture, c'est parce que vraiment, et les gens quand j'en reparle, ils me font, ah mais je connaissais pas. Il y a des gens, voilà, on nous a tellement mis dans la tête qu'il faut faire ça, qu'il faut acheter pour manger, que quand tu parles des gens qui peuvent aller dans des pommiers manger comme ça, que ça leur paraît complètement idiot. Comme on dit, comment un oiseau peut savoir qu'il peut voler alors qu'il a vécu toute sa vie dans une cage? C'est exactement ce qu'on a. Le problème, c'est que les gens sont dans une cage, mais si tu ouvres la porte, ils savent pas ce qui va se passer derrière. Ils savent pas qu'ils peuvent voler d'eux-mêmes. On nous a tellement enfermés dans ce système que les gens, quand tu leur dis, mais vous pouvez faire ça, ça, et regardez, la nature, elle le fait elle-même. Ah, c'est sûr, vous n'allez pas manger des tomates en plein hiver ou des fraises, ça c'est sûr. Mais parce que c'est pas normal. Une tomate et des fraises, ça ne pousse pas en hiver. Voilà. Et on nous a tellement, enfin, ouais, on peut dire lobotomisés, hein, que dans les grandes surfaces, machin, nanana, on peut avoir des fraises en plein mois de décembre. Maintenant, il y a des gens, ça les choque même plus de voir ça. Mais au début, il y a, allez, 20-25 ans, quand on voyait
Oui.
ça, les anciens, même ma grand-mère, elle me disait, c'est complètement hérétique de voir ce genre de choses.
Entendu, bien sûr, ça fait. Moi, j'en ai vu des fraises aujourd'hui, j'en ai vu au marché. Hein, parce qu'au marché, il n'y a pas que du bio, hein, bon, il faut savoir. Bon.
Oui.
Mais c'est un grand stand énorme de gens qui viennent de je ne sais pas d'où. Bon. Il y avait plein de fraises, énormes fraises, tu sais.
Fraises espagnoles, ça.
Ben, c'est quand tu vois ça, ça m'a fait. J'ai eu un peu un haut le cœur parce que je sens bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, quoi. Hein, c'est pas normal. Et elles viennent, bon, je sais à peu près comment c'est fait, dans des serres et tout ça. Bon, elles sont forcées et puis elles n'ont pas trop de goût, quoi, en fait. Mais bon, c'est OK. Mais je comprends ce que tu dis. Bien sûr, il y a des gens qui crèvent de faim. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr. Oui, je sais, il y a des gens qui crèvent de faim, ils n'ont plus assez d'argent pour finir le mois. Et j'en connais dans ma famille. Hein, dans ma famille, j'ai des gens qui gagnent 650 euros par mois. Hier, j'ai eu une patiente, elle gagne 800 euros par mois. Hein. Ben, pour payer la consultation, d'abord, j'ai fait moitié prix, et puis elle m'a payé avec des points jeux. C'est ce que c'est, les points jeux.
Oui, c'est une monnaie locale.
C'est pas une monnaie locale,
D'accord.
c'est international. On peut aller avec des points jeux, aller au Canada. Il y en a au Canada et ça marche beaucoup, ça va très fort.
D'accord, non, je connais pas, non.
Mais c'est un peu comme le sel. Tu connais le système du sel?
Non, du tout.
Ah, alors, Cédric, oh là là. Les points jeux, c'est un échange. C'est-à-dire que on est un groupe ici, on est peut-être 80 personnes dans notre petite ville, mais dans le département, on est beaucoup plus nombreux encore. C'est-à-dire qu'on a un carnet et on s'échange des points. Par exemple, au marché, on a acheté un peu de salade. La personne, elle vend en points jeux. Et combien elle m'a dit, ça faisait 36 points jeux. Alors, sur mon carnet, j'ai enlevé 36, et sur son carnet, j'ai mis plus 36.
D'accord.
On se paye avec des points, qu'on appelle jeux. Jeux qui s'appellent jardin. Comment? Jeux, JEU, jardin universel. Comment c'est déjà? Bref, peu importe, hein, c'est des points jeux. Et quand on était à Béziers, ben, il y avait un grand groupe aussi, on payait pas tout, hein, mais il y a des choses qu'on arrive à payer avec des points jeux. Et on a un carnet où on est en plus, en moins, en plus, en moins. C'est une manière de remplacer l'argent. Hein.
D'accord. Mais comment on accède pour avoir ces points jeux, etc.
Ah ben, si tu veux, tu prends un carnet, tu peux te le fabriquer toi-même, tu démarres avec 0 point jeu, et tu vas, si tu as des gens autour de toi qui fonctionnent comme ça, ben tu peux soit proposer, toi, des services. Et par exemple, moi, ce que je propose, c'est des consultations. Ben, je fais une consultation, ça fait 300 ou 400 points jeux, mettons. Hein,
D'accord,
voilà.
ok.
Et donc, si je fais une consultation, la personne, sur mon carnet, elle va écrire plus 300. Hein, avec le solde que j'avais, ben, ça s'ajoute 300. Et sur son carnet, j'enlève 300.
D'accord, ok.
Et elle a un nouveau solde. Et puis, elle s'en va. Alors, on est en positif, en négatif, mais le but, c'est d'être à l'équilibre, plus ou moins. Hein, voilà. Et puis, c'est comme ça qu'on peut s'acheter des services. On peut vendre, je vois paraître dans ma boîte mail, parce que j'en ai plusieurs, il y en a qui vendaient un canapé ce matin. Un canapé à 400 points jeux.
D'accord. Et y a un site internet qui parle de ça ou...
Ben oui, si tu vas. Oui, il y a un site, mais jeux, JEU. Comment ça s'appelle? Jardin. Mince, je ne me souviens plus le E, qu'est-ce qu'il veut dire? D'échange. Jardin d'échange universel. Voilà. Si tu mets jardin échange universel, il y a un site, je crois qu'il y a un site national. Ça marche très très fort au Canada. Il y a une personne ici, par exemple, elle est allée au Canada, elle a pu voyager à peu près avec des points jeux. Alors, on ne paye pas le train, bien sûr, hein, mais le déplacement, il y a des déplacements qu'on peut payer avec des points jeux, avec une en BlaBlaCar, par exemple.
D'accord, alors là j'ai un
Hein.
site, c'est lejeu.org.
Oui,
Je sais pas si
vas-y.
c'est ça.
Peut-être, oui.
Jardin d'échange universel.
Exactement. Voilà. Voilà. Alors, il y a le jeu de l'Ariège, où je suis, qui est très actif, où on est nombreux. Et donc, voilà, moi, mon carnet, ben, je l'ai utilisé ce matin, hier. Je l'ai utilisé encore, oui, ce matin au marché. Voilà, tu vois. Alors, pas pour tout, bien sûr, hein, mais
Oui.
il y a beaucoup de choses quand on a envie de. Par exemple. J'ai besoin, moi, parce que j'ai un grand, grand, grand jardin, j'ai besoin d'aide. Ben, il y a deux personnes qui vont venir, je les paye en points jeux.
D'accord, ouais, je regarde un petit peu, je connaissais pas. Enfin, je savais qu'il y avait quelque chose comme ça, mais je connaissais pas le nom exact. J'en avais déjà
Oui.
entendu parler, mais
Alors, des points jeux, il y en a partout en France, hein. Il est né à Perpignan par un monsieur dont je ne me souviens plus le nom, qui est décédé maintenant, qui a créé ça il y a 20 ou 25 ans. Et par chance, il est parti au Canada, ce jeu. Et avec notre carnet, on peut aller au Canada et puis avoir une chambre ici, avoir un repas par ici, avoir. Bref. Ceux qui ont un carnet, hein, ceux qui ont un carnet et qui rentrent dans l'échange. Tu vois, et donc, si ça se généralise, oh ben, à part de prendre l'avion, le train et des services comme ça, on pourrait acheter beaucoup de choses avec le jeu. Nous, il y a
D'accord.
des gens, on a des chambres d'hôtes. C'est arrivé que des chambres, on les fasse payer en moitié point jeu, moitié point jeu, moitié euro.
D'accord.
C'est tout à fait. Voilà, c'est une solution pour des gens qui veulent. Voilà, des gens qui. Et on en a, là, des gens, hein, qui ont des difficultés à boucler le mois. Eh bien, avec le carnet, les jeux, le point jeu, ils arrivent à acheter. Tu vois?
D'accord, ouais, parce que je regarde, il y a d'autres sites aussi qui en parlent.
Bien
Il
sûr.
y en a plusieurs.
Alors, quelqu'un qui est en difficulté financière, il peut arriver à manger avec les points jeux, hein, ça c'est certain. Et puis ensuite, pour regonfler un peu son carnet, ben, il peut proposer des services. Et les services, il y en a qui donnent des cours d'anglais, de mathématiques, ou il y en a qui donnent toutes sortes de services, quoi. Tout le monde a des capacités qu'il peut proposer en point jeu. Tu vois?
Ouais, je vois ça. Il y a plusieurs sites
Ouais.
différents. Je vois qu'il y en a dans le 45.
Partout en France, partout. Et je m'aperçois que ça tend à se généraliser de plus en plus. Alors, ça ne va jamais remplacer la monnaie tout à fait, bien
Oui.
entendu. Mais s'il y avait un gros problème au niveau des banques, ce qui n'est pas impossible, eh bien, avec les points jeux, on peut arriver à faire tourner la maison, quoi.
Ouais, quelque part, ça fait un peu comme le système des monnaies locales où il y a certains qui proposent des services. Bon, bien que
Oui.
c'est un peu plus différent, mais oui, ok, je vois. C'est vrai que j'en avais entendu parler de un principe comme ça. Je ne savais pas exactement comment ça s'appelait, mais j'avais déjà entendu parler de
Ah ben
que
oui,
des gens
ben.
proposaient des services et puis qu'avec ça, ils pouvaient prendre autre chose, etc.
Ça fait 12 ans qu'on le fait. Mais
D'accord.
on ne le fait pas de façon régulière, parce que, bon, mais voilà, on a un carnet. Puis là, en ce moment, parce qu'ici, ils sont très actifs, alors c'est vrai que notre carnet, ben, il tourne, là. Il tourne pas mal.
Là, j'ai regardé un petit peu, je sais même pas si du côté de Bordeaux il y en a, je pense que oui. Bon, après, j'ai pas trop cherché non plus en direct,
Oui.
mais ouais, c'est
Ah,
vrai que
Bordeaux, ça m'étonnerait que.
ouais, il doit y en avoir, hein, je pense. Hein.
Ah oui, mais à mon avis, il y en a dans toute la France. À mon avis, il y en a dans toute la France. Alors, moi, j'ai mon carnet, il est là. J'ai 700. Plus, j'ai un capital de 700 euros, 700 points. C'est pas beaucoup, mais.
Oui, après ça dépend les prestations de l'autre côté, est-ce que ça.
Oui, parce que là j'ai eu demandé pas mal de services des gens qui sont venus m'aider comme ça, donc voilà, je suis passé en négatif. Puis là, bon, quand de temps en temps je donne une consultation, ben, je la fais payer en point jeu. Voilà.
Ouais, bah oui, c'est vrai que c'est une bonne idée que je ne connaissais pas, peut-être que d'autres personnes qui écoutent en direct ou sur les podcasts ne connaissaient peut-être pas non plus, donc du coup. Essayez de voir si dans votre département, si vous n'avez pas le même genre de enfin, j'ai redit, le même genre de choses, quoi. Voilà. Essayez de
Ah,
vous renseigner sur Internet.
moi, j'encourage ceux qui nous écoutent à rentrer dans ce système parce que c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait connaître des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées. Donc, ça élargit nos relations, hein. C'est intéressant pour ça, très intéressant.
Bah oui, quelque part, oui,
Et
pour les petits services.
pour justement les personnes, parce que bien sûr que dans tous ceux qui ont les points jeux, la majorité sont des gens qui roulent pas sur l'or, hein. Et quelquefois, on voit des gens qui sont en grande précarité. Et là, je m'aperçois que avec les points jeux, ben, ils
Ouais.
arrivent à s'en sortir un petit peu mieux, tu vois. C'est une solution. Et là, c'est une solution parce qu'en plus, ça développe la solidarité. Hein, il y a quelque chose qui, il y a des, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, quoi. C'est un peu ce que font les gilets jaunes. Il y
Oui,
a
c'est
beaucoup.
ça.
La solidarité chez eux, c'est quelque chose de très, très beau à remarquer souvent. Hein.
Et c'est vrai que contrairement à ce qu'on peut voir dans les médias et tout ça, qui disent que le mouvement s'essouffle, qu'ils sont pas soutenus, moi j'ai vu souvent des gens comme ça qui venaient leur apporter des fois des croissants, des trucs comme ça voilà, pour manger quoi. Il y a quand même un soutien qui est quand même là. Hein. Donc même s'il n'est pas forcément démontré, hein, avec un gilet sur le tableau de bord, bon, moi, le gilet, il n'est pas sur le tableau de bord parce qu'à chaque fois que je prenais un rond-point, le gilet, il glissait d'un côté ou de l'autre. Du coup, je l'ai mis sur la plage arrière. Mais voilà, je veux dire, il y a des gens qui n'ont peut-être pas forcément de gilet, mais c'est pas pour autant qu'ils les soutiennent pas. Parce que ils sont plus ou moins, comment dire, plus ou moins concernés. Il y a eu pendant un moment les fameux foulards rouges qu'ils étaient sortis. Là, les gens, ils se sont écroulés de rire parce que quand on voyait les revendications et tout ça, on voyait bien que. C'était la bourgeoisie qui se plaignait du pauvre qui grogne, voilà. on revenait un petit peu à l'époque de Louis XIV et compagnie, quoi.
Oui.
Ça, voilà, ça faisait un peu rire. D'ailleurs, on n'en entend plus parler maintenant, hein, donc ça a tellement fait un flop que voilà.
Et oui, là aussi, ça a été une manipulation
monumentale.
Oui, mais une manipulation venue de je ne sais pas d'où, mais bon, c'était quelque chose pour essayer de contrecarrer les gilets jaunes.
Je pense, ouais, mais ça a fait un énorme flop comme pas possible.
Ça
d'ailleurs,
bien.
Oui? Ah, ça a coupé? Non.
J'entends plus.
Oui, tu disais que ça a coupé?
Non, mais je disais. Par certainement par l'élite ou pas, pour contrecarrer le mouvement des gilets jaunes, mais ça n'a pas marché.
Oui, tout à fait. Ouais. Ça, ils ont dû le faire deux fois, je crois, et après. Ouais, d'ailleurs,
ça n'a pas marché. Ouais.
Sur les chiffres du ministère de l'Intérieur, ils disaient qu'ils étaient un nombre pas possible. Il y avait des gilets jaunes qui les ont infiltrés, et puis ils ont pris des photos. En fait, ils n'étaient pas plus de 60 ou centaines de personnes, quoi. Il n'y avait personne, quoi.
Oui, bien sûr.
Voilà, et la plupart qui étaient dedans, c'était des gilets jaunes qui venaient là pour avec des pancartes Macron t'aime, enfin voilà des trucs.
Ouais.
Vraiment, c'était humoristique le truc d'ailleurs. Voilà, ça, les médias n'en parlent même plus d'ailleurs de ça. Hein, ça a
et
été
oui.
deux fois et après, voilà, c'est comme aussi les gilets jaunes, enfin les pseudo gilets jaunes qui montaient un parti politique. Ils ont vite été mis de côté. Et surtout que maintenant.
Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Ben, y a toujours des gens qui profitent de ça. Et puis, on peut remarquer, c'est que. Alors, on ne sait pas à quel niveau se trouve se fait la manipulation, qui tire les ficelles de ça. Il y a des personnes qui vont monter des listes ou qui vont se présenter aux élections prochaines. Là. Qui se sont dit gilets jaunes, mais qui ne l'étaient pas en réalité.
Oui, tout à fait.
Qui ne l'ont jamais été. Donc, c'est assez curieux. Mais bon, c'est vrai qu'il faut avoir assez de discernement pour écarter un peu ces choses. Parce qu'il y a beaucoup de parasites quoi, dans des mouvements comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les gilets jaunes sont infiltrés par d'autres, par des policiers, par tout ça. Donc tout ça, c'est assez complexe. Mmh. C'est d'où, moi, ce que je remarque, c'est ce que je disais au début, c'est cette espèce d'énergie qui habite les gilets jaunes, ce mouvement, une énergie consciente, une énergie qui va les amener très loin, quoi. Alors après, jusqu'où, j'espère qu'il n'y aura pas trop de casse, quand même. Mais c'est quelque chose qui va amener à des grands changements, quoi. C'est ce que je pense. Ouais. Mais je sais pas de quelle nature ils vont être, de quelle forme ça va prendre. Ça risque d'être un petit peu douloureux, mais je sais pas. Effectivement, je sais pas vraiment.
Ouais,
c'est vrai que, ouais. Et on peut aussi se poser la question, pourquoi des gilets et pourquoi jaunes?
Oui, aussi.
Alors, ce qu'on peut voir, c'est que tous ces gens qui sont, surtout les premiers, mais beaucoup encore qui sont là, hein, sont des gens qu'on ne voyait jamais, des gens qui n'ont jamais été, qui n'ont jamais eu d'élection, qui n'ont jamais été élus, jamais fait partie d'un parti politique ou d'un syndicat, ce sont des gens vraiment qu'on ne voyait pas. Et là, ils ont mis un gilet pour qu'on les voit.
Oui, surtout qu'en plus, c'est un gilet de civilisation.
Et oui, c'est... Oui, là maintenant ils sont visibles. Et j'aime bien cette idée que ces gens qui étaient dans l'ombre, d'un coup, sont montés à la lumière. Tu sais, il y a comme un renversement des choses, quoi. Tu sais, voilà. Bon, c'est des idées qui me sont venues comme ça, mais c'est ce qu'on peut observer, quoi. Hein. Il faut toujours observer au second degré un peu les choses. Mais voilà, moi ce que je déplore quand même, c'est que des gens soient blessés. Et oui. Et puis, ce qu'on peut déplorer, c'est vrai, c'est une frange des gilets jaunes qui sont eux aussi entrés dans la violence.
Oui.
C'est normal aussi, c'est normal qu'ils se soient laissés griser, Et puis bon, l'excitation venant, c'est vrai que les manœuvres des policiers ont fait qu'ils se sont trouvés souvent nassés, comme on dit, hein, enfermés complètement. Et donc, la colère, on peut comprendre. Leur font faire des
oui.
répréhensibles, quoi. Hein, ouais.
Mais il y a quand même.
Alors, on peut comprendre.
Je sais pas si tu m'entends, mais je voulais dire, il y a quand même des policiers qui, comment dire, qui ont avoué qu'ils avaient des ordres qui étaient quand même vraiment poussés de faire une répression énorme, hein, dont certains n'étaient, pour la plupart, n'étaient pas d'accord, hein, avec ça.
Ah ben, bien sûr, l'immense majorité des policiers, c'est pas leur plaisir de taper sur des gens, hein. Mais ils ont des ordres, bien entendu, bien sûr. Bien sûr. Alors bon, c'est vrai que bon, c'est un peu désolant de voir des braves gens, des personnes âgées beaucoup, hein,
oui,
des retraités, se faire malmener comme ça, c'est triste.
Et oui, bah oui, justement aussi avec le fameux Christophe Dettinger qui a été condamné parce qu'en fait il est venu en secours à une personne qui était à terre et qui se faisait matraquer, que même un collègue CRS faisait montrer à l'autre de stopper, quoi, d'arrêter, quoi.
Ouais, et ouais.
Donc, bah,
ouais, maintenant, maintenant, du côté des policiers, il faut comprendre aussi que, tu vois, il y a une chose que j'avais remarqué à un certain moment, c'est pas facile de, j'avais pu l'observer, on laissait des policiers immobiles, sans bouger à un endroit, comme ça. Et pendant ce temps, ils se faisaient insulter, ils se faisaient cracher dessus, on leur jetait des trucs. À la place des policiers, bah, j'aurais été agacé, et plus qu'agacé. On leur donne l'ordre de ne pas bouger. Et quand on leur donne l'ordre de foncer, est-ce que tu vois la colère retenue depuis une heure ou deux ou trois se déverser d'un coup, quoi? C'est compréhensible, quoi.
Oui, mais justement, c'est là que certains policiers ont dit, c'est qu'ils avaient des ordres,
oui,
de ne pas faire de répression sur les casseurs. Parce qu'en fait, c'est pas les gilets jaunes qui allaient agresser, hein. Les gilets jaunes, ils pouvaient passer à côté. Il y en a,
oui,
même certains qui parlaient avec des CRS, hein. C'est pour dire.
Oui.
Mais c'est les casseurs qui venaient là pour chauffer, et puis ils avaient ordre de ne pas y toucher. Il y en a qui ont avoué, qui disaient qu'ils avaient des ordres de ne pas y toucher. Ça commence à sortir. D'ailleurs, depuis le début de l'année, je sais plus combien il y a de suicides de policiers, mais ça devient énorme. Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème.
Oui, ça.
Je crois qu'ils en sont au 14e ou 15e policier qui se suicide.
Oui, beaucoup de policiers se sont suicidés.
Donc ça prouve qu'il y a quand même...
Oui. Et il y a une chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on est entré depuis déjà une dizaine d'années, mais de plus en plus, on peut le remarquer, c'est que tous les mensonges, les anciens mensonges, commencent à tomber.
Oui.
Après, on a une période où vraiment la vérité va éclater de partout. Je viens de lire le livre qu'a sorti Philippe de Villiers.
Oui.
J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu. C'est édifiant, hein. C'est édifiant. Mmh. Ce livre n'aurait pas pu sortir il y a ne serait-ce que 10 ans.
Ouais,
mais là, maintenant, c'est possible. Et là, il annonce des choses vraiment tout à fait incroyables, quoi.
Excuse-moi de te couper, mais ça fait un moment déjà qu'il était sorti de la classe politique, parce que déjà, par acte ponctuel, il dénonçait déjà beaucoup de choses que, pour lui, c'était une horreur, quoi.
Oui, je sais. Ouais, non, mais c'est vrai. Et là, dans ce livre, il a mis les preuves de ce qu'il annonce, et c'est tout à fait incroyable. Alors, c'est vrai que la construction de l'Europe, et en fait, c'est vrai que ça rejoint le mouvement des Gilets jaunes, parce que leur première revendication, justement, la construction de l'Europe, hein, bien sûr. Enfin, pour moi, ça fait aucun doute, bien sûr. Maintenant, il y a quelque chose dont on commence à parler maintenant. La loi du 3 janvier ou 5 janvier, je ne sais plus, janvier 1973.
Oui, la loi Rothschild.
La loi Rothschild, la loi Pompidou-Giscard, on l'appelle comme on veut. Et c'est cette loi qui, maintenant, est la cause de tout ce qui se passe maintenant, de toute cette misère, hein. Puisqu'on paye la dette. J'ai même appris il y a quelque temps, bon, est-ce que c'est vrai à 100%, des informations, il y en a beaucoup, hein, que nos impôts, l'impôt sur le revenu sert à 100% à payer la dette. Et non pas comme on le croit, à payer des écoles, à payer les hôpitaux, à payer les routes et tout ça. Ça sert à payer la dette, exclusivement.
Bah, moi, j'en serais pas étonné parce que quand on voit l'état des hôpitaux, des écoles, des routes, j'en serais pas étonné. Mais déjà, en plus, le pire, c'est que c'est une dette qui est totalement fictive, qui n'existe pas. On pourrait du jour au lendemain dire, écoute, la loi Rothschild, hop, au revoir.
Bien sûr, mais bon, oui, mais bien entendu, bien sûr. Maintenant, il faudrait prendre la décision, hein, mais il faudrait sortir de l'Europe, il faudrait, bon, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais enfin, il y a une prise de conscience maintenant qui commence à monter de partout, quoi. C'est ça qui est intéressant. Bon, voilà. Mais bon, il ne s'agit pas de faire la révolution et la guerre. Effectivement, moi, ce que je remarque, c'est que l'intéressant, c'est ça, c'est que maintenant, les mensonges commencent à tomber. On commence à parler des chemtrails, on commence à parler. Alors les vaccins, on n'en parle pas suffisamment. Je suis un peu, ça me désole un petit peu parce que pour moi c'est une des choses les plus graves de tuer nos enfants, quoi. Hein?
Mais ça, c'est le, comme je l'appelle, c'est le syndrome Pasteur.
Ben oui, mais Pasteur, bon, Pasteur, un jour la vérité va tomber.
Oui.
Là, bon, il y a beaucoup de gens qui sont au courant de ce qu'était cet homme. Mais bon, pour l'instant, c'est encore, c'est comme Monet et Schumann, ce sont des grands hommes. Hein. Mais leur piédestal tombera un jour, mais je ne sais pas quand, mais certainement bientôt, certainement bientôt.
Bah, de toute façon, toutes ces vérités-là sont détenues par l'OMS, hein. C'est ce que j'ai eu pendant l'émission avec, comment il s'appelle, Tal Chaleur, qui lui est tombé sur ces documents, hein. C'est pas de la fiction, il est tombé dessus et c'est détenu par l'OMS, qui a eu des recherches qui ont démontré que les vaccins avaient un taux d'efficacité médiocre, qu'il a dit que même une entreprise n'investirait pas dans quelque chose comme ça, comme produit, et qu'en plus il se révélait dangereux. Donc, mais il a dit, l'OMS, ils ont tout, hein. Ils ont toutes les preuves. Mais quand ça va commencer à s'attaquer à l'OMS qui va devoir rendre des comptes, bah à mon avis, je pense qu'elle va tout lâcher. Hein. Et c'est là que les
Ouais.
vérités vont commencer à sortir.
Oui, mais l'OMS est dans les mains des laboratoires, hein. C'est les laboratoires qui tiennent tout, hein.
Oui, mais c'est ce que je te dis. Là, par exemple, j'ai la mère de ma fille qui est sur comment dire, une société qui propose un produit de nettoyage du corps,
J'entends
mais
pas.
qui est... Hein? Ah, ça doit couper. D'un produit, je vais pas dire le nom parce que c'est pas vraiment pour faire de la pub. J'espère que tu vas m'entendre. C'est que ce produit-là, en fait, est vraiment tellement efficace qu'il y a des gens qui ont eu des maladies qui étaient dites incurables, qui commencent à avoir des rémissions. Tout ça par preuve scientifique. Il y a des gens qui se sont remis d'un cancer, que le cancer a disparu. Enfin, des choses vraiment qui paraissent du miracle, alors que pourtant, c'est pas du tout du miracle. Et bah là, cette société-là commence à se faire attaquer par les lobbies pharmaceutiques, qui ont réussi à faire interdire le produit à la vente à cause d'un certain produit qui disent qu'il est trop important, etc. Mais voilà, on sait très bien que c'est pas pour ça. C'est parce que ce produit commence à sauver des gens et que eux, bah c'est une menace. Parce qu'ils peuvent plus vendre leur saloperie, quoi.
Ça va enlever, ça va leur, ils vont voir diminuer leurs clients.
C'est ça. Surtout qu'en plus, à la base, ce produit-là, il n'y a rien de chimique. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout chimique. Il a été découvert totalement par hasard. Je l'ai testé sur moi-même, pas beaucoup, mais je l'ai testé sur moi-même. Et pourtant, en une seule prise, j'ai senti quand même des choses. D'ailleurs, c'est même ça qui m'a déclenché ma crève. J'étais pas du tout malade, mais en fait, la crève, ce qu'on
Ouais.
appelle un peu la rhinite et tout ça, bah en fait, c'est tout simplement le corps qui se nettoie. Voilà. C'est une manière du corps de se nettoyer des toxines. Et ouais, pour te dire, voilà, on pourra en parler en antenne et tout ça, mais honnêtement, ce truc-là, il y a des choses hallucinantes, quoi. Et tout ça, ce sont des témoignages qui sont démontrés par des. Enfin, qu'il y a eu des scientifiques qui ont bien dit, oui, effectivement, il y a eu quelque chose. Même des médecins qui ont dit, mais qu'est-ce que vous avez fait, quoi? Parce que là, ils se disaient, vous avez ça, et là, c'est en train de faire une rémission. Vous avez fait quoi? Tu vois? Et je pense que tout ça, bah, ça a dû remonter, ça a dû faire ding 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 à Bayer et compagnie là, et du coup ça n'a pas dû leur plaire ça. Parce que leur but, eux, c'est pas d'aider, c'est pas de guérir les gens. Hein. Malheureusement.
Ben oui, c'est parce que c'est des entreprises commerciales, hein. Donc une entreprise commerciale, son but c'est d'avoir de plus en plus de clients, bien sûr. Comme toutes les entreprises commerciales.
Et oui.
Bien sûr, mais les gens ont du mal à réaliser ça. Une entreprise commerciale, plus un laboratoire pharmaceutique, son but c'est d'avoir de plus en plus de clients. Et c'est clair, quoi. Ouais. Et oui, ben voilà, moi ce que je voudrais, c'est dans les revendications, on parle du des vaccins, mais on n'en parle pas beaucoup.
Ça viendra peut-être.
Oui, j'espère. J'espère. Mais bon, gardons espoir maintenant. Et espérons que de samedi en samedi, ça ne dégénère pas en violence extrême. Malheureusement, ça, c'est. On peut pas l'empêcher. Je sais pas ce qui va se passer, mais j'ai bien peur que ça soit dramatique pour des gens. Ouais. Voilà.
Oui. Comment dire? Bon, ben, on touche en fait à la fin de cette émission. On l'a dépassé de à peu près 6 minutes.
Oui.
Bon. Donc, je rappelle encore désolé pour les coupures qu'il y a eu, parce que par moment, quand tu parlais, il y a eu des micro-coupures qui se faisaient. Voilà. Bon, ça, c'est les aléas du direct, et Skype aujourd'hui, il a pas été très sympa, mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Pour toi, quel serait le mot de la fin de cette émission du mois de mars?
Eh bien, je vais redire un peu ce que je disais. Je souhaite que ces changements qui s'annoncent, je les attends depuis longtemps, puisque c'était visible depuis très longtemps. Et on est dans cette époque-là. Alors, bien sûr, on peut se dire, c'est ce que je dis souvent, on est en train de vivre une époque absolument extraordinaire de changements si importants qu'on ne peut pas mesurer encore. Des changements à tout point de vue. Mais c'est surtout des changements sur un plan du niveau de conscience. Et c'est ça qui est en train de se faire. Les niveaux de conscience des gens s'élèvent de plus en plus. C'est ça la révolution. Et c'est ça qui a amené les gilets jaunes dans les rues. C'est un niveau de conscience différent. Et ça, c'est la vraie révolution. Alors, bon, les changements vont se faire. Ce que je peux souhaiter, c'est que ça se fasse sans violence. Voilà. Ça, c'est mon vœu le plus cher. Quand je vois toutes ces violences et des blessés, ça, c'est très souffrant. C'est très douloureux. Voilà. Et ben voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est que, voilà. Ces changements vont arriver, c'est une grande chance pour l'humanité, parce qu'en fait les changements vont pas se faire uniquement au niveau de la France, c'est au niveau de l'Europe et peut-être bien davantage.
Ouais.
Et je sais pas si tu as remarqué, les changements dans le monde sont souvent partis de la France.
Souvent. Ouais.
Souvent. Les idées de révolution sont parties de la France souvent, et là ça risque d'être encore le cas. C'est pourquoi d'ailleurs les élites ont ciblé la France en premier lieu. C'est pourquoi nous avons Macron, et que Macron n'est pas allé en Allemagne, en Italie ou en Espagne, mais chez nous.
Oui.
Voilà. Bon, voyons, nous allons vivre ça. J'espère que nous allons vivre le plus doucement possible, le plus en douceur, je veux dire, et que ça se fasse sans casse, quoi, voilà, sans casse pour nos familles, sans casse pour les gens, sans casse pour les, voilà, pour tous nos compatriotes. Bon, c'est tout ce que je peux souhaiter, mais nous verrons un peu la suite, voilà.
Oui. Malheureusement, on ne détient pas les clés de toutes les choses.
C'est sûr.
Eh bien, merci Jean pour ce mot de la fin pour cette émission du mois de mars. Hein. Donc, on se retrouvera donc le mois prochain. Donc, pareil. Hein. Donc, exceptionnellement, là, ça a été le dernier vendredi du mois de mars. Hein. Mais je rappelle quand même que la fréquence a changé. Ce sera tous les derniers jeudis de chaque mois. Voilà.
D'accord.
Voilà. Là, exceptionnellement, c'était là parce qu'il y a eu un petit empêchement hier. Voilà. Donc, ben, je te dis, passe une très bonne soirée. Et puis, donc, au mois d'avril.
Au mois d'avril, entendu.
Allez, à
merci
très bientôt.
À très bientôt.
Voilà, donc cette émission du mois de mars de Spiritualité en question touche à sa fin. J'espère que vous avez appris quand même pas mal de choses. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions en direct parce qu'il y a un espace qui est prévu à cet effet. Bon, pour ceux qui vont écouter cette émission podcast, vous pouvez quand même néanmoins poser vos questions sur notre adresse mail à radioterrazen@outlook.fr. Et s'il y a un message que vous voulez transmettre à Jean, bah, vous pouvez le faire exactement à cette même adresse, en mettant dans l'intitulé « Message pour Jean Gracier de l'émission Spiritualité en question ». Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis rendez-vous donc au mois prochain pour une nouvelle émission de Spiritualité en question.